Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Vous avez été nombreux à m'écrire, à réagir après l'écoute du témoignage de Bruno Serre qu'on recevait hier avec sa conjointe, Bruno Serre, dont la fille Brigitte a été assassinée il y a 13 ans par un criminel qui purge une peine de prison à vie, 25 ans. Il demandait quand même des conditions pour pouvoir sortir de temps en temps, avoir accès à des proches. Il s'est marié d'ailleurs récemment en prison. Ce qui d'ailleurs nous permettait hier de débattre un peu de la réhabilitation puis des conditions des détenus. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais aujourd'hui on va donner la parole à une mère, entre autres, qui livre un cri du cœur par rapport à sa fille qui a été assassinée. Et cette fois, c'est par un ex-conjoint qui fait face d'ailleurs à une accusation de meurtre au deuxième degré. Je vous le dis tout de suite, là, c'était il y a à peine une semaine. Noémie Lavoie, donc 24 ans, a été tuée par son ex. Et comme dans bien des cas, personne ne pouvait prédire quoi que ce soit, même si l'ex-conjoint avait quand même un casier judiciaire et semblait être dans la catégorie de ce qu'on appelle les bad boys. J'ai avec moi la mère de Noémie Lavoie, Cathy Gay. Bonjour, Cathy.
Bonjour.
Je veux vous dire d'entrée de jeu que je compatis énormément avec votre perte. Je sais que c'est très frais pour vous. Vous venez d'enterrer votre fille, c'est la pire chose qui puisse arriver à un parent. Je pense qu'on ne peut même pas imaginer ce que vous vivez. J'ai juste envie de vous demander aujourd'hui de nous raconter un peu comment, je comprends là, que vous devez traverser une période extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs par rapport à ce qui est arrivé à Noémie?
Écoutez, ce qui est arrivé à Noémie, j'aurais jamais pensé que ça y aurait arrivé un jour. Je pouvais m'attendre parce que c'était une personne quand même assez vivante, puis qu'elle faisait pas vraiment attention à tout, elle faisait confiance beaucoup, beaucoup trop. Puis moi, je lui avais demandé de rester avec moi ici, j'ai tout essayé de la garder ici, il m'avait préféré y retourner. Puis en fait, lui, il m'avait dit qu'il allait jamais ressortir de prison après sa dernière sentence. Puis finalement, ils l'ont laissé sortir. Je ne comprends pas parce que moi, dans ma tête, ils ne devaient pas ressortir de là. J'étais sûre qu'elle ne le reverrait jamais. Puis finalement, ben, elle l'a revu, mais en un mois et demi, puis il a réussi à nous l'enlever, nous l'arracher. C'est inimaginable. On n'y croit pas, même pas encore aujourd'hui, après avoir eu les funérailles.
C'était hier que vous avez enterré votre fille?
Oui.
Évidemment, bon, vous dites que l'ex-conjoint avait un dossier criminel à la suite d'accusations. Je pense qu'il y avait agression armée, agression sexuelle, vol d'identité. Il était en prison pour ces crimes-là. Vous dites qu'il ne devait pas ressortir.
Comment? Oui, et moi, il m'avait dit qu'il ne ressortirait pas parce qu'il disait qu'il allait le déporter tout de suite après sa sentence. Finalement, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ils l'ont laissé sortir. Puis Noémie, ben dans le dernier procès qu'il y a eu pour lui, Noémie avait été impliquée sur voyons comment on dit ça, sur
mais elle l'avait protégée, je pense, hein. C'est ça qui.
Ouais, complice après les faits, parce qu'elle l'avait ramenée ici. Mm-hmm. Puis il a été dit il n'y a pas longtemps que Noémie a été accusée d'agression sexuelle aussi, mais c'est pas la vérité. C'est une chose qui n'a pas été dans le procès, là, elle n'a pas été accusée de ça.
Oui. Vous dites qu'il a été. Il risque l'expulsion vers son pays d'origine. Il est originaire du Tchad. Donc, ça sera à voir, bien sûr, dans la poursuite de ce dossier. Une chose est sûre, c'est que vous retrouvez aujourd'hui, Cathy. Vous avez plus de filles. Vous êtes devant cette espèce de drame incommensurable avec plein de questions. Puis vous dites, il y a jamais rien. J'aurais jamais pu m'imaginer qu'il fasse ça. En même temps, il y avait quand même tout un dossier, ce gars-là.
Oui, mais nous autres, on le savait pas.
Ouais. Et votre fille le savait. Comment on arrive? Vous avez dû retourner la question plein de fois dans votre tête. Comment on arrive? Puis tous les parents ils doivent y penser en ce moment, comme je le fais là, moi. Comment on est, quand on voit nos enfants, nos jeunes filles, nos jeunes gars aussi, parce que ça peut leur arriver aussi, pris dans des rapports amoureux, troubles, dangereux, violents, comment on peut faire pour les sortir de là?
C'est sûr, ça dépend toujours de nos enfants, dans le fond. Parce que quand nous autres, on voudrait tellement, souvent on veut plus qu'eux autres. Puis on voudrait tellement les éviter toutes ces souffrances-là. Mais s'ils s'acharnent à dire « moi, c'est ce que je veux », on n'a pas le pouvoir, on n'a pas la capacité de les enlever ça de la tête, dans le fond. Parce que moi, je lui disais, je le savais qu'il avait, il avait déjà fessé de toute façon, avait déjà eu des ecchymoses, j'avais déjà vu des bleus, j'ai déjà vu des choses comme ça. Puis je lui disais, écoute, c'est pas une samarine, il est dit aussi, c'est pas une personne pour toi. On lui disait tout. Mais elle avait dans sa tête qu'elle l'aimait puis qu'elle voyait que lui. Là. Elle était rendue même à faire des parties des choses de leur religion à eux autres. Puis là, je disais, voyons, ça n'a pas de sens. T'as toujours mangé ces choses-là. Pourquoi tu continues pas? Maman, t'as toujours fait ça, t'as toujours aimé ça.
Comme par exemple,
du porc, eux autres, ils mangent pas de ça. Fait que quand je cuisinais ou quoi que ce soit, je faisais du porc. Elle était là, moi, du porc, j'en mange pas, je veux rien savoir. Tu sais, elle n'en voulait pas, mais elle en a toujours mangé. Depuis qu'elle était toute petite, qu'elle mangeait ça.
Son ex est musulman, c'est ça?
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, aujourd'hui, ce que je pense, tu sais, on dit, moi, c'est ça, que je pardonnerai jamais à lui. La sentence sera jamais assez grosse pour moi. Pour toute la douleur qu'on a, toute la famille, moi, en particulier, son père. Tout ce que ça nous inflige, la famille de son père, c'est inimaginable. Tout ce qu'ils peuvent endurer eux autres aussi, même si on n'était plus ensemble. Ça, c'est, tu sais, on s'est quand même tenu les coudes hier, on s'est quand même supporté tout ensemble. Puis je pense que c'est important, puis elle, c'est ce qu'elle aurait voulu, de voir les deux familles proches. Puis aujourd'hui, je me dis que la mère, elle vit là-dedans. Sa mère, elle, je peux pas y en vouloir. On met des enfants au monde, mais on sait pas comment est-ce qu'ils vivent. Je comprends sa peine à elle aussi. Parce qu'elle, en plus, il a commis l'acte. Puis faut qu'elle se dise, en plus, c'est mon fils, puis on les aime tous nos enfants. Malgré ce qu'elle a fait, elle doit l'aimer pareil.
Avec votre fille, vous vous étiez vue il y a 15 jours, c'est ça? Vous vous étiez fait une fin de semaine mère-fille?
Oui, une fin de semaine mère-fille. Ça s'est super bien passé.
Vous aviez parlé toutefois de ce fameux Ali qui la violentait, qui était violent avec elle.
Oui, quand elle est arrivée ici, moi, elle m'a dit que là, elle s'est ouvert un peu plus parce que c'était pas une personne qui parlait beaucoup de ces choses. Puis moi, elle m'en comptait pas trop pour pas me faire de peine.
Ouais.
Pas que je sois inquiète parce qu'elle disait à tout un moment, inquiète-toi pas. Ça va bien. Je suis capable, maman. Je vais y arriver. Je me bats. C'est vrai qu'elle se battait beaucoup. Elle voulait travailler à Montréal. Elle voulait décrocher un emploi là-bas. Puis elle avait réussi. Elle travaillait au bois laurentien.
Mm-hmm.
Puis je pense que les employés là-bas, le monde qui l'entourait là-bas, c'était quand même du bon monde parce que je pense qu'ils ont voulu l'aider dans tout ça parce que j'ai parlé, moi, à son boss, il m'a appelé ici. Il appelait pour avoir des nouvelles de Noémie quand est-ce qu'elle allait retourner au travail et c'est moi qui ai annoncé que Noémie était décédée la veille d'un drame à Montréal. Fait qu'il a pris ça très dur. Je pense qu'il a dit que c'était une grosse perte parce qu'elle était vraiment fine. Il l'aimait beaucoup. Lui, il s'en était rendu compte aussi que Ali avait fait... des blessures à Noémie qu'il avait fessées, il s'en était rendu compte.
Il l'avait congédié parce qu'il travaillait, Ali et Noémie, votre fille, travaillaient au même endroit dans cette entreprise-là, d'après ce que je comprends, puis l'employeur a su qu'il l'avait frappé, puis il l'a congédié d'ailleurs, le fameux gars.
Oui, il a été congédié, ils ont gardé Noémie au travail, lui a été congédié. Puis lui me dit que c'est ça, là, il essayait de donner de l'avancement à Noémie, t'sais, il essayait de la protéger, il essayait d'y aider à se trouver un appartement, c'est ce qu'elle voulait. Elle aimait les grandes villes, elle aimait ces choses-là. Le métro, elle voulait pas d'auto. Elle disait qu'elle n'était pas faite pour un auto. Elle préférait prendre le métro. Mais moi, je savais qu'elle avait quand même... Elle était quand même pas prudente de ce côté-là. Elle faisait des choses des fois, mais sans penser que ça pouvait être dangereux pour elle. Puis je le savais, c'est qu'à toutes les nuits, tu sais, je me disais tout le temps, j'avais dit à ben du monde, tu sais, je le disais souvent, je vais avoir un téléphone, il va avoir arrivé quelque chose. Je le sentais en tant que mère, je le sentais que ça allait arriver à un moment donné. Qu'elle allait arriver de quoi de grave ou que j'avais toujours un feeling que ça allait arriver. Puis je me suis pas vraiment trompée, je pense.
Donc, quand vous m'avez dit tout à l'heure, jamais j'aurais cru qu'il en arrive là. Dans le fond, il y avait votre voix intérieure qui vous le disait que c'était tout à fait possible.
Oui, possible, mais peut-être pas dans ce sens-là, parce que Noémie, c'était une personne qui était se décourageait. Tu sais, elle disait, oh, t'as trouvé ça dur quand même, la vie, c'était quand même pas facile pour elle. Elle avait quand même un problème de comportement là, au niveau, comment je vous dirais ça, Okay. Elle ne voyait pas. Elle se valorisait pas. Elle se dévalorisait tout le temps. Elle était influençable. Ouais. Puis elle se dévalorisait beaucoup. Elle se voyait pas de valeur. Puis là, je disais, ben, t'es belle. T'as tout pour réussir dans la vie. Faut juste que tu fonces. Faut juste que tu te dises qu'il y a du monde pour t'aider. Puis là, j'essayais de la faire consulter. Puis elle voulait pas.
Pourquoi les filles n'entendent pas ça quand on leur dit qu'elles sont belles? Pourquoi elles se dénigrent?
Je pense peut-être parce qu'ils se le font dire aussi. Peut-être que quelqu'un leur fait faire quelque chose qui fait qu'ils ne se sentent pas bien dans le pot. Peut-être que lui, il a fait faire des choses, je ne le sais pas, je ne suis pas au courant de rien. On peut s'imaginer n'importe quoi, là. Puis je vous dirais que c'est à peu près ça qu'on vit. On s'imagine plein de choses. On se demande si elle a souffert. On se pose plein de questions. On est sans réponse. C'est le plus dur, je pense, à supporter présentement. Ça, moi, mon plus dur, c'est de savoir quand il a commis l'acte. As-tu eu le temps de se voir partir? Même si on me dit que ça a été rapide, j'ai eu de la misère à m'imaginer qu'elle n'a pas eu le temps de penser à toutes nous autres, son père, sa mère. J'ai pas de mots pour exprimer vraiment. Puis j'ai de la colère en dedans qui sort pas. Ça sort pas, je suis pas capable de l'exprimer. C'est trop lourd, c'est pesant, c'est... Moi, j'ai sa chambre ici, je regarde ses affaires, je me dis, elle reviendra pas. Quand elle est partie, elle était là et qu'on est bien chez maman, tu sais, elle se trouvait bien. Puis elle m'avait appris la veille qu'elle s'en revenait le lendemain. Fait que moi, je m'attendais de la voir arriver, je m'attendais pas de voir débarquer un enquêteur à la maison.
Oh, mon Dieu. Cathy, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. J'espère que... Écoutez, je sincèrement, là-dessus, je pense que les mots... sont trop peu convaincants. Et ici, je pense qu'on a juste envie de vous envoyer plein d'encouragement, surtout d'amour et d'empathie. Toutes nos condoléances, je pense que les auditeurs doivent être extrêmement touchés par ce que vous venez de nous dire, puis on s'imagine être à votre place, puis on veut pas. C'est la pire affaire qui puisse arriver à un parent, c'est sûr. Merci beaucoup, Cathy Guy. Malheureusement, il faudra passer à travers un procès et revivre tout ça. On aura sans doute l'occasion de se reparler. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler à tout le monde aujourd'hui.
Parfait, merci.
Mais salutations à vos proches, merci. Moi, ce genre de témoignage, ça me bouleverse vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de difficultés à ne serait-ce qu'interviewer quelqu'un qui vit ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Comment voulez-vous qu'on dise à une mère qui nous dit ce que Cathy vient de nous dire? Quels mots on peut trouver, là? Moi, j'ai pas de mots intelligents. j'ai comme juste envie d'écouter puis de dire, mon Dieu, faut qu'on leur dise qu'on les aime, nos enfants. Puis surtout, là, toutes les mauvaises personnes qui vont croiser, qu'elles vont croiser sur leur route, là, leur dire que on les aime, on les entoure, on espère que tout le discours de dénigrement sur les réseaux sociaux ne va jamais les atteindre. Mais on sait en même temps que c'est pas vrai. Malgré tous nos encouragements, c'est pas vrai. Il y a comme des trous dans la cuirasse, dans l'armure, puis ça les atteint pareil. On va aller à la pause. Oui, puis on va en parler avec Nathalie Villeneuve, qui est avec moi, intervenante sociale, qui s'occupe justement de femmes violentées. Tout de suite après ceci, évidemment, si vous avez envie de nous parler de ce sujet-là, on parle de violences faites aux femmes, faites aux hommes aussi. Il y a aussi des hommes qui en vivent. Tous ceux qui sont victimes de violences de la part d'un ex-conjoint, conjointe, 514-790-9850, 1-866-790-9850. Ouf, j'ai encore tout retourné par le témoignage de Cathy Guy. Vous avouerez que c'est pas évident d'entendre cette mère qui, avec ce cri du cœur de rage, de peine, de colère, d'incompréhension. Puis moi, je comprends tout à fait ce qu'elle a pu ressentir. Sa fille Noémie a été assassinée la semaine dernière, donc c'est très, très, très frais. Elle a enterré sa fille hier. Toute la famille, tous les proches se demandent comment ça se fait que ce gars-là, d'abord, un, il y a plein de questions qui demeurent, puis ça sera dans le cadre du procès qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais il y avait un dossier criminel, il a été en dedans, il devait être extradé dans son pays d'origine, le Tchad. Visiblement, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « bon, on mange pas de porc, violent, musulman ». Il y a bien des Québécois aussi qui sont pas musulmans puis ils tuent leur femme aussi, fait qu'on n'ira pas là. Mais c'est sûr qu'il y a un contexte ici qui est un contexte typique de violence conjugale. Là, Noémie qui avait dit à sa famille, bon, je vais probablement retourner voir ma mère à Chicoutimi, je vais prendre un autre appartement. Le gars, il perdait le contrôle complètement, là. Il l'avait plus, là. C'est l'histoire du monstre. Vous êtes nombreux à me dire, ah, c'est comme l'histoire d'Ingrid Falaise. C'est vrai que ça ressemble à ça. Avec moi, Nathalie Villeneuve, qui connaît bien tout ça. Ça fait plus de 20 ans, Nathalie. Merci d'être là, que vous travaillez en intervention sociale auprès de femmes en difficulté. Vous êtes coordonnatrice de la maison INA. Je sais pas si vous avez des mots. Moi, j'en ai peu devant le témoignage d'une mère comme ça.
C'est très difficile de trouver les bons mots. Mais ce que j'aurais envie de dire à cette maman-là, c'est que nos pensées l'accompagnent. J'espère qu'elle ira chercher de l'aide. Ouais. Les maisons d'hébergement sont là. Elle pourrait demander d'avoir un suivi, d'avoir de l'aide dans une maison d'hébergement. Puis moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il faut surtout pas qu'elle se sente coupable. Parce que la violence conjugale, ça s'inscrit dans un processus de domination. Alors, même si cette maman-là disait à sa fille, ça n'a pas de bon sens ce que tu vis, tu mérites pas ça, sors de là, va-t'en de là, c'est qu'aussitôt qu'elle est en présence du conjoint, lui, il défait tout ça. C'est difficile pour la victime de rester centrée parce que le conjoint, lui, ce qu'il fait, c'est essayer de te décentrer de ton sentiment de colère, de dire, ben, ça n'a pas de bon sens ce que je suis en train de vivre, tu sais. C'est comme, ta mère, c'est une folle, elle m'aime pas, j'extrapole, vous comprenez, je sais pas qu'est-ce qu'il lui disait, mais, tu sais, crois pas ta mère, puis c'est ça, t'aimes mieux croire ta mère que moi. Donc, on défait beaucoup. Le conjoint qui est violent, il va défaire ce que la famille, les amis, le travail. Hier, on me demandait, est-ce que tout a été fait? Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Est-ce que la jeune fille aurait dû porter plainte quand monsieur a été violent physiquement avec elle? Est-ce que on aurait dû mettre des scénarios de protection? Parce que quand une victime décide de quitter, elle est en danger parce que le conjoint, ce qu'il comprend, puis vous venez de le dire, il va perdre le contrôle. Il perd le contrôle. Donc, bien évidemment, il risque d'augmenter la violence. Puis dans ce cas-là, malheureusement, ça a été l'ultime contrôle. Monsieur est allé jusqu'à la tuer. Mais c'est pas parce que la maman a pas travaillé fort, c'est pas parce que le travail a pas mis en place. Moi, je félicite l'employeur de cette jeune fille-là d'avoir congédié monsieur, parce qu'il avait appris que monsieur était violent avec...
En même temps, ça n'a pas dû le mettre de bonne humeur.
Non, mais c'est pour ça que je dis que quand on décide de faire des gestes comme ça, il faut penser au scénario de protection.
On ne sait pas, mais il a peut-être voulu se venger, il a peut-être voulu avoir une dernière conversation avec Noémie,
exactement.
C'est celle-là qui a été fatale.
Et c'est pour ça qu'on invite les gens à appeler dans les maisons d'hébergement, à faire appel à SOS Violence Conjugale, parce que quand on décide de partir, quand on décide de faire un changement dans notre vie, il faut
le préparer.
Il faut le préparer.
Ouais. Mais ce que vous nous dites aussi, Nathalie, c'est que peu importe ce que les parents vont dire, peu importe ce que les amis, les proches vont dire à une personne qui vit un contexte de violence conjugale, c'est que malgré tout ça, il n'y a rien qu'on peut faire.
C'est
rien,
difficile.
Ce qu'on va dire ne va pas toucher la personne.
Mais en fait,
il n'y aura pas d'impact du tout.
Oui, il y en a eu parce que dans le cas de Noémie, elle avait décidé de retourner à Chicoutimi. Donc, fort probablement que ce que sa mère lui avait dit avait fait son chemin. Mais ce n'est pas instantané. Puis souvent, la famille, les amis, les proches vivent beaucoup d'impuissance parce que ce qu'on voudrait, c'est quand on tombe dans cette situation-là, ce serait presque d'attacher nos enfants dans le sous-sol puis être sûr qu'ils reverront plus cette personne-là, qu'elle aura plus ce contrôle-là. Mais malheureusement, c'est très difficile. Puis elle le disait, Madame Gay, t'sais, c'était aussi sa vie. Je pouvais pas l'empêcher.
C'est sûr.
Je pouvais pas l'empêcher de faire sa vie. Ouais. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'aller chercher de l'aide, de préparer nos départs. Oui, des fois, on part rapidement pour des raisons de sécurité, mais quand on peut, essayer de le préparer, d'avoir des scénarios de protection, de voir, ben, y a-tu quelqu'un qui est au courant que je vais partir. Si je lui dis, de quelle façon, peut-être pas de vive voix, peut-être je pourrais le faire par téléphone, par texto, lui envoyer une lettre. Peut-être que je pourrais être chez des amis quand je vais lui annoncer. Peut-être que je pourrais être en sécurité dans une maison d'hébergement quand je vais lui annoncer que la relation est terminée pour pas que monsieur puisse me retrouver. Puis on le dit souvent, mais la meilleure façon de se protéger, c'est aussi de porter plainte lorsqu'on est victime de violences physiques, lorsqu'on est victime de harcèlement, de menaces de mort. Le système n'est pas parfait, mais ça demeure quand même une des façons de se protéger, là, de dénoncer.
Ouais. On a Sylvie avec nous qui a déjà été victime de violences conjugales il y a plusieurs années. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour. J'ai un petit peu de misère encore à parler de ça parce que ça m'a marqué, puis je suis encore marquée, mais je vais essayer d'être brève. Le père de ma fille, j'ai été 9 ans avec lui. Finalement, on a décidé d'avoir un enfant, puis par la suite, il est devenu jaloux de sa propre fille. Elle était bébé, puis il donnait des coups de pied dans son lit quand elle pleurait. Il criait après elle, sacrait après elle. Je me suis dit, peut-être qu'il fait une dépression. J'ai dit, je vais l'aider, tout ça. Mais finalement, j'allais travailler, puis je l'ai enregistré. Puis, il abattait quand j'étais pas là. Puis, je me demandais pourquoi qu'elle pleurait quand j'allais travailler de soir. Puis, il abattait. Puis, quand je suis arrivée, il y avait 6 pieds 2. J'ai sauté dessus. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que tu fais là? Tout ça. En tout cas, finalement, bref, je suis partie avec ma fille. Parce que pas devant lui, parce qu'il disait qu'elle allait nous tuer. À un moment donné, il m'avait pogné dans un coin, il dit, je vais t'arracher la tête. Mais j'ai pris un couteau, j'ai dit, arrache-moi la tête, je vais être obligée de me défendre. La police était venue. Là, c'est lui qui a été accusé. Là, il était fâché après les policiers, a crié après les policiers. En tout cas, finalement, je suis partie avec ma fille.
Ouais.
Puis, aujourd'hui, il l'a complètement renié. Il a dit, il me dit, excuse-moi, là. Je bloque, là. Bon, là, je vais aller à la deuxième violence conjugale. J'ai vécu avec un autre homme. Lui, quand j'ai voulu le laisser parce qu'il se branchait pas, il disait qu'il voulait être seul, tout ça, il me faisait déménager, puis tout ça. Puis, finalement, ben, il a dit, je vais faire éliminer tes parents. Il disait que son père connaissait un Angel. Il disait que c'était à cause de mes parents que je voulais le quitter. Puis il voulait faire tuer mes parents. En tout cas, les deux, ils ont passé en cours, tout ça. Puis ils ont plus le droit de m'approcher. Mais mon ex, le père de ma fille, a fait une fin de semaine de prison. Puis son père a payé la caution. Puis aujourd'hui, j'ai eu du trouble à me faire payer une pension alimentaire. Mais il me disait tout le temps, je vais te poigner dans un coin, puis je vais te démolir. Puis
avez-vous encore peur pour votre sécurité, Sylvie?
Oui, puis non. Mais là, je sais qu'il est déménagé pas loin de chez moi. Il s'est acheté une maison, tout ça, pas loin de chez moi. Mais oui,
il y a combien de temps qu'il a déménagé près de chez vous?
Ça va faire 2 ans, là. Ça va.
Okay. Puis il n'y a rien arrivé là depuis. Il n'y a pas eu rien. Là. Pas de lettre à la poste, pas de...
Il a essayé de nous emmener en cours pour la pension alimentaire, c'est tout. Mais il me suivait jusque dans les toilettes là, pour que je refuse, puis tout ça. Puis j'étais obligée de rentrer avec un agent de sécurité, tout ça. Parce qu'il me disait tout le temps qu'elle allait me démolir le visage, puis qu'elle allait me pogner dans un coin.
Alors, ce que je comprends, c'est que monsieur n'avait pas d'interdit de contact, madame?
Oui, il y en avait, mais,
Il respectait
tout le temps. Non, c'est ça.
Mais ça, quand il y a un non-respect des interdits de contact, c'est un...
On a le droit de signaler aux policiers.
Il faut appeler le 911, effectivement. Ouais. Merci, Sylvie. Bon courage. On comprend que c'est...
Oui, bon courage, Sylvie.
C'est stressant.
Merci beaucoup.
C'est stressant, cette situation. J'ai vécu ça, moi. Pas savoir s'il ne va pas venir sonner à ta porte, là. C'est un peu inquiétant. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue nous voir.
Ça me fait plaisir, rappeler...
L'idée de parler de ça aujourd'hui, c'est aussi de rappeler à toutes ces femmes, il y en a toujours une douzaine, une quinzaine, bon an, mal an, au Québec, là, qui se font assassiner par leur conjoint ou ex-conjoint. Souvent, quand la conjointe suggère qu'elle va faire un petit bout, qu'elle va s'en aller, qu'elle va prendre ses distances, faites attention, protégez-vous et sachez qu'il y a des maisons comme la maison INA, H-I-N-A, qui sont là pour vous aider.
La meilleure façon, c'est par SOS Violence Conjugale. On va vous référer à une maison à travers le Québec. Il y en a 110 à travers le Québec. Donc, vous trouverez sûrement une bonne oreille.
Merci beaucoup, merci. Nathalie. Merci. Dans un tout autre registre, elle est depuis 8 ans, elle se passionne pour la boxe, mais là, depuis peu, elle est devenue la première femme championne du monde de boxe. C'est une première historique pour nous. Je la reçois tout de suite après ceci. Il y a un combat qui se prépare le mois prochain au Casino de Montréal. Elle défendra sa ceinture IBF du monde des super mi-moyens. Qui est-elle? Elle s'appelle Marie-Ève Dicker. Elle est avec moi tout de suite après.